grâce et la paix
nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, notre frère.
Père, tu nous accordes ton esprit, par lui tu illumines notre cœur, que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et de ta paix, du salut que tu nous donnes. Accueillis dans la paix, accueillis par la grâce, nous pouvons dire la bienvenue à chacun. Bienvenue pour ce temps mis à part, que vous soyez entré comme d'habitude à l'oratoire, que vous soyez visiteur d'un jour ou que vous essayez de voir si ça sera chez vous, par exemple. Soyez les bienvenus, c'est votre moment avec Dieu, votre moment de paix, notre moment ensemble, notre moment de communauté. J'ai été invité à assurer le culte ce matin pour permettre à la pasteur Béatrice Cléromazir d'accompagner ceux qui se sont rendus aujourd'hui à l'Assemblée du désert, comme beaucoup de protestants français. C'est donc en communion avec eux que nous chanterons, que nous prierons, que nous écouterons la parole, ainsi qu'avec toutes les personnes qui, dans le monde, se lèvent pour chanter les louanges du Seigneur. Bénissons Dieu, je vous invite à vous lever. Vous avez le recueil des spontanés au début du psautier. Merci Seigneur pour les semaines d'été, pour les découvertes et les rencontres, la beauté contemplée, pour le silence et la paix, pour le repos et le ressourcement. Merci pour ces trésors, je les garde dans mon corps et dans mon cœur. Maintenant Seigneur, c'est la rentrée dans le temps ordinaire. Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé. Je ne rentrerai pas dans mes vieilles habitudes. Je vais entrer en lutte. Je vais entrer en amour. Je vais entrer en douceur. Je vais entrer en miséricorde et en sourire. Entrer en clarté. Entrer en courage. Entrer en évangile, encore une fois. Entrer dans la paix de ton royaume. C'est notre rentrée. Merci de ta présence, de nous donner l'occasion de te louer. Au nom de Jésus-Christ, amen. Et nous poursuivons notre louange avec le psaume 84. Dans ta maison, je suis heureux. Psaume 84, nous chantons les strophes 1, 2 et 3. Donc dans le psautier français.
Écoutons la volonté de Dieu avec les mots du prophète Ésaïe. Brise les chaînes injustes, délivre ce qu'on opprime, mets fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim, préoccupe-toi de celui qui est sans abri et ne te détourne pas de ton prochain. Parle, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Chantons. Présentons-nous avec sincérité, humilité et vérité devant le Seigneur. Quand la vie me fait peur, avec son cortège de changements, de bouleversements, d'inconnus, tu me dis confiance. Quand j'ai mal dans mon corps, touché par la maladie, quand la souffrance et la peine me rendent prisonnier, découragé, tu me dis confiance. Quand l'envie me prend de baisser les bras, lassé par les combats, usé par les échecs, tu me dis confiance. Quand la violence semble le seul message possible, le chacun pour soi, la seule réponse. Tu me dis confiance. Quand le sourire apparaît, que la main se tend, que le cœur s'ouvre, ton royaume est partagé. Et tu me dis confiance. C'est dans la confiance que nous nous remettons à toi, au Dieu notre Père. Amen. Dieu est amour. Il entend la prière, le cri de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché est pardonné. par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, qu'il nous redresse, nous relève et nous donne de marcher vers son royaume. Et c'est pourquoi nous nous levons pour chanter notre reconnaissance. Combien grande est la gloire! Assurés de l'accueil inconditionnel de Dieu, nous pouvons confesser notre foi avec ces mots de la liturgie réformée de l'ancienne Église réformée de France. Nous croyons en Dieu le Père. Il nous a créés, nous et toutes les créatures, pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il est vivant et donne un sens à notre espérance. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Il œuvre dans le monde, anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. En Dieu, nous te bénissons. Dieu seul, toute louange et toute gloire par son Fils Jésus-Christ. Ce matin, nous écouterons deux passages, l'un tiré de l'Ancien Testament, du prophète Ésaïe, au chapitre 35, puis un texte de l'Évangile de Marc qui servira d'appui et d'inspiration à la prédication. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 35, ces quelques paroles d'encouragement, de réconfort et d'espérance, à partir du verset 3. Rendez fortes les mains faibles. Affermissez les genoux qui font trébucher. Dites à ceux dont le cœur palpite, soyez forts, n'ayez pas peur, il est là, votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même vous sauver. Alors, les yeux des aveugles seront dessillés, les oreilles des sourds entendront. Alors le boiteux sautera comme un cerf,
et la langue du muet poussera des cris de joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans la plaine aride, le lieu torride se changera en étang, et la terre de la soif en fontaine. Et dans l'évangile de Marc, le récit d'une rencontre qui fait un peu allusion à ce texte d'Ésaïe. C'est au chapitre 7, à partir du verset 31. Jésus le Christ était en pays étranger et il revient en direction de la mer de Galilée. Il sortit du territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler, et on le supplie de poser la main sur lui. Il l'emmena à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha, ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il proclamait la nouvelle. En proie à l'ébahissement le plus total, il disait « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Je vous invite à chanter le cantique 190 « Roi des anges », cantique 190, dont nous allons chanter les quatre strophes. 1, 2, 3, 4. Cantique 190 dans le petit recueil.
Thank you.
Père, au moment d'écouter les Écritures, d'essayer de les entendre, de les comprendre et d'en recevoir ta parole, nous voulons remettre nos questions, nos espérances, nos appels à ta tendresse. Tu assembles des croyants en tout lieu dans ce monde, inspire celles et ceux qui parlent, rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit l'inspiration de notre vie, la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance, en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, le théologien pratique que je suis ne peut pas s'empêcher de signaler que le cantique que nous avons chanté, nous le devons à Alexandre Vinet, un théologien suisse du XIXe siècle, pasteur, marqué aussi par les mouvements de réveil qui ont aussi un peu marqué l'histoire de l'oratoire, je crois. Et donc, c'est à lui que nous devons ces belles paroles de prière adressées et d'espérance de la venue et de l'écoute du Christ et du Père. Dans le récit de cette rencontre avec un sourd muet, alors on dit sourd muet dans les titres, mais en réalité il n'est pas tout à fait muet, n'est-ce pas? Il parle un petit peu, mais il a de la peine à s'exprimer. Dans le récit de cette rencontre, on retient souvent le mot étrange, Ephphatha. C'est même devenu une devise pour certains groupes, pour certains mouvements, pour certaines communautés. Et bien sûr, c'est un mot important. Ephphatha, ouvre-toi, dit la traduction proposée par l'évangéliste lui-même, et on en parlera. Mais avant ça, j'aimerais commencer cette prédication en prêtant attention aux mots qui précèdent, en prêtant attention à un verbe du récit. Le narrateur nous dit que, levant les yeux vers le ciel, Jésus soupira. Jésus soupire. En grec, ce verbe a deux sens, gémir et soupirer. Alors, est-ce que c'est l'un ou l'autre? Est-ce que Jésus gémit ou est-ce qu'il soupire? Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de trancher de manière catégorique. Les traducteurs, en général, ont choisi soupir. Mais dans le mot, les deux sens sont présents. Ils vont ensemble. Et d'ailleurs, un gémissement, c'est un soupir, en quelque sorte, un peu plus sonore. Mais j'aimerais commencer par l'idée d'un soupir. Un soupir. Qu'est-ce que c'est qu'un soupir? Alors, c'est plusieurs choses. Comme il y a parmi nous des mélomanes, des musiciens, je vous propose d'écouter d'abord. Un soupir, c'est un silence. C'est un signe musical qui nous indique qu'il faut faire silence. Si ma mémoire est bonne, c'est d'une durée équivalente à une noire.
Souvent, c'est dans la partition une voix, une ligne, un instrument, une main qui s'arrête. Mais il arrive aussi que l'ensemble des instruments, l'ensemble de l'orchestre marque un silence, que l'orgue s'arrête un instant. Ce qui donne alors une puissance extraordinaire à ce temps où le son s'arrête. Alors j'aime penser que ici, c'est un silence de cet ordre qui nous est proposé. Si on écoute le récit de cette rencontre, de cette guérison, comme une musique, eh bien il y a un moment où tout s'arrête pour laisser place au seul soupir du Christ adressé au ciel. Alors, j'insiste un peu parce que on risque de passer par-dessus. On risque de le passer sous silence, si vous me permettez l'expression. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas quand on chante. Par exemple, quand on chante des psaumes, on a tendance à passer par-dessus les silences pour n'entendre que les sons et les paroles. Le psaume que nous avons chanté tout à l'heure, il y a un silence après chaque phrase, mais c'est rare qu'on le marque. On préfère porter notre attention aux sons et aux paroles. D'un point de vue physiologique, un soupir, eh bien, c'est une expiration, suivie d'un silence, souvent. L'expiration elle-même, elle n'est pas silencieuse, mais elle est sans parole. Et si on pense, sans mots en tout cas, et si on pense au gémissement plutôt, eh bien, c'est aussi l'absence de parole articulée qui est soulignée. Jésus fait silence, il soupire, il gémit vers le ciel. Et d'ailleurs, dans ce récit où on dit qu'il arrive à tel endroit, que des gens lui amènent une personne et lui demandent de faire quelque chose, il n'a pas encore ouvert la bouche. Il n'a pas encore parlé, d'après la manière dont la rencontre est rapportée par Marc. De sorte que sa première expression, c'est précisément un soupir. Ça mettra bien sûr d'autant plus en valeur son premier mot ensuite, « Ouvre-toi, Ephphatha ». Mais restons encore un peu avec ce soupir. Comment peut-on essayer de l'interpréter? Il me semble qu'on peut souligner deux aspects. D'un côté, c'est l'expression d'une souffrance, d'une compassion. Mais d'un autre côté, c'est aussi une parole. Sans mots, certes, mais c'est un acte de communication, une parole tout de même. C'est une prière adressée au ciel, car le récit précise bien, c'est en levant les yeux au ciel que Jésus émet ce soupir. Donc Jésus exprime ici sa compassion devant la situation de l'homme qui se trouve avec lui, qu'on lui a amené. Il le prend au sérieux, il le fait sortir de l'anonymat en l'éloignant un peu de cette foule qu'on peut imaginer bruyante. Il prend au sérieux sa condition, il touche. Il touche les oreilles, il touche la langue, et même plus que ça, il met les doigts dans les oreilles, il crache et prend sa propre salive pour toucher la langue. C'est très corporel aussi, cette histoire. Alors certains pensent que tous ces gestes indiquent, avec le soupir aussi, qu'il s'agit d'une guérison particulièrement difficile, et donc que tout ça, ces gestes, ce silence, ce soupir, ça souligne eh bien, la puissance particulière qui va être mise en œuvre. Et pour certains, le soupir, ça serait ce moment où le Christ a rassemblé toutes ses énergies, on dirait aujourd'hui, et les fait s'exprimer d'un seul coup dans le soupir. Je ne pense pas que ce soit exactement ça. Je pense qu'on fait dire autre chose au texte en pensant ça. Il me semble plutôt que d'abord, Jésus exprime à quel point il est touché, à quel point il est touché par l'enfermement de cet homme. Et devant la souffrance, Jésus soupire, il gémit. C'est donc, on l'a dit, aussi une forme d'expression, une prière. Le gémissement du Christ résume l'appel de la souffrance. En deçà des mots, c'est le gémissement de la création dans les douleurs de l'enfantement. C'est le gémissement de l'Esprit-Saint qui prie en nous en des gémissements inexprimables, pour reprendre deux expressions de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Le gémissement de la création, le gémissement de l'Esprit-Saint. Et peut-être que c'est ce gémissement, ce soupir qui permet au Christ de passer du silence à la parole, d'être lui-même au bénéfice de cette puissance de vie et d'ouverture qui émane de Dieu et qui l'invoque. Est-ce qu'on peut même aller, ça j'en suis pas sûr, mais j'aime bien l'idée, est-ce qu'on peut aller jusqu'à rapprocher le soupir de Jésus du souffle ténu, du bruissement d'un silence dans lequel Dieu apparaît à Élie dans le livre des Rois? Jésus, ici, c'est le gémissement de Dieu. Nous-mêmes, quand nous soupirons, quand il nous arrive de soupirer, ce moment d'expiration, eh bien, nous situe sur une crête, sur le fil du rasoir, oscillant entre le découragement, le sentiment d'être submergé, enfermé, et l'obstination d'une espérance qui triomphera malgré tout. Et c'est vrai que je crois qu'il lui en faut au Christ du courage et de l'obstination pour triompher de nos enfermements. Après le soupir, après le gémissement, après le silence, survient enfin la parole. Parole du Christ d'abord. Alors on traduit en général « ouvre-toi ». Mais, puisque l'Évangile lui-même traduit ce mot « ephata », mais c'est difficile à traduire parce que le grec est au passif. Désolé pour ce petit point de grammaire, mais il est un petit peu important. C'est au passif. Et je crois bien que c'est aussi le cas de l'araméen, du mot araméen « ephata ». Ce qui signifie que cet « ouvre-toi », ça n'est en tout cas pas un appel à la volonté. Jésus ne dit pas « fais un effort, ouvre-toi ». C'est plutôt un appel au relâchement, au lâcher-prise. Laisse-toi ouvrir. « Ouvre-toi », ça n'est donc pas une injonction qui laisserait entendre que finalement, dans nos enfermements, oh bien, pour en sortir, ça tient avant tout à notre volonté, à la volonté humaine. Ah, Jésus ne dit pas à cet homme, si tu voulais, tu pourrais. Il lui dit, sois ouvert, ou laisse-toi ouvrir. Sois ouvert comme on casse un œuf dur, comme on ouvre une boîte de soda, si vous voulez. Non pas libère-toi, mais voilà, je te libère, sois libéré. Dieu te libère de ce qui te lie. Ensuite, le narrateur précise qu'immédiatement, les oreilles s'ouvrent et littéralement, le lien de la langue se délie. Ce qui lie la langue, ce qui la referme, ce qui la retient est délié. Non pas qu'il ne pouvait pas parler, comme je l'ai dit en introduction, mais il parlait mal. Plus il faisait des efforts, peut-on imaginer, moins il était compris. Sa langue se libère et il trouve la faculté de s'exprimer clairement, droitement, dit le texte, correctement, justement. Remarquons, alors on le sait bien, que quand on n'arrive pas à s'exprimer, c'est parce qu'on n'entend pas bien les sons aussi, probablement. Mais remarquons que dans le récit, les oreilles et la langue vont ensemble. Il s'exprime mal, cet homme, parce qu'il est sourd. Et donc, ce sont les oreilles qui s'ouvrent en premier. C'est que pour libérer la parole, frères et sœurs, il faut d'abord que les oreilles s'ouvrent. Et ici, la langue qui parle droit, qui dit les mots justes et qui les dit bien, ce n'est pas une langue qui dit tout haut et fort. C'est la langue d'un homme, d'une femme, qui commence par écouter véritablement. Du reste, le récit s'achève par un appel à se taire. Comme souvent d'ailleurs dans les récits de miracles de l'évangile de Marc, au point qu'on en a fait une théorie, la théorie du secret, qui ne peut être révélée que sur la croix, pense-t-on. Alors bien sûr c'est le cas, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à cette demande de silence qui, comme souvent aussi, n'est pas respectée d'ailleurs ? Il me semble que cet appel à se taire est d'autant plus frappant que les personnes à qui il est adressé, ça ne s'adresse pas aux sourds-muets, hein, il s'adresse aux autres, qui n'est d'ailleurs plus sourd-muet, hein, cet homme, mais il s'adresse à ces personnes de manière indéfinie, on ne sait pas qui sont-ils, les personnes qui l'ont accompagné, qui sont présentes, ces personnes dont le texte nous dit qu'elles prêchent, elles annoncent la nouvelle, c'est le mot, le verbe de la prédication chrétienne qui est utilisé ici. Et c'est la prédication chrétienne, ou en tout cas une certaine prédication chrétienne, qui fait l'objet de la réprimande de Jésus. Alors pourquoi cela ? Peut-être que la réponse à cette question est à trouver dans les mots de ceux que Jésus réprimande. En une phrase, le récit se termine en nous disant qu'ils sont très étonnés. Il cite indirectement le prophète Ésaïe, pour dire que Jésus fait tout bien, fait les choses à merveille, il a tout juste, quoi. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Ils ont généralisé. Ils ont perdu de vue la personne, celle de Jésus et celle que Jésus avait prise à part. Ils ont généralisé. Et ils ont accentué. Ils exacerbent non pas l'action de Jésus, mais la prédication de puissance. Une prédication autour, non pas de Jésus et de la personne, mais autour de ce qu'il représente à leurs yeux. Il a tout juste ce qu'ils attendent, un puissant Messie, un Messie de gloire. Mais dans ce récit, Dieu se donne à connaître dans un soupir, dans un gémissement, qui trouve dans l'évangile de Marc son paroxysme, dans le cri poussé par le Christ sur la croix. Pour l'évangéliste Marc, une prédication qui serait tout entière centrée sur la réalisation de la puissance ne saurait être complète, ne saurait être une prédication chrétienne même. Alors quelle serait pour nous, quelle doit être pour nous une parole chrétienne, une conduite chrétienne ? Il me semble qu'à la suite de cette rencontre, c'est d'abord une invitation à l'écoute véritable. L'écoute véritable du gémissement de Dieu qui s'exprime dans la bouche du Christ. Nous sommes invités à l'accueillir, ce gémissement, comme un gémissement sur tout ce qui nous enferme. À le recevoir ensuite comme nos propres soupirs, comme un basculement de l'impuissance à l'espérance. Et dans nos relations, ce gémissement de Dieu nous engage à faire silence pour écouter,
à ne jamais nous autoriser à porter un jugement définitif sur ce qui enferme autrui, parce que, ben oui, nous sommes des experts sur les autres. Ce gémissement de Dieu nous engage à accueillir, à écouter, à dire l'espérance de l'ouverture, car le Christ gémit, mais le Christ libère. Il est solidaire jusqu'à l'extrémité, jusqu'à nous libérer du plus grand enfermement. Et le soupir du Christ, je crois, nous invite à découvrir l'infinie compassion de Dieu, à laquelle nous sommes jour après jour invités à nous confier, par laquelle nous sommes jour après jour invités à nous laisser ouvrir. Elle annonce, cette compassion divine, l'infinie liberté. L'infinie liberté des enfants de Dieu, liberté de tout ce qui enferme l'homme, de tout ce qui nous enferme, car Dieu est celui qui ouvre, celui qui nous ouvre. Amen. Je vous propose de chanter le cantique 240 dans le recueil bleu. Cantique 240, les strophes 1, 2 et 3, les trois strophes. Vers toi s'élève mon âme.
Bonjour à tous et merci pour votre présence pour ce dernier culte de l'été. Merci au pasteur Nicolas Cochamp pour sa prédication et à David Cassan, notre organiste co-titulaire, pour son accompagnement musical. Alors, quelques annonces pour la semaine à venir. Tout d'abord, une exposition nouvelle réalisée par l'atelier Grisou se tient dans le passage Maringo. Vous pouvez la voir de 13h à 18h les après-midi. Et d'autres dates sont sur le site éventuellement. Jeudi 6 septembre, Jean Guillou, concertiste international, nous fait l'honneur de nous donner ici un concert avec, accompagné par Sarah Kim, notre autre organiste co-titulaire. C'est à 20h ici même, avec une libre participation aux frais. La semaine prochaine, dimanche prochain, c'est le culte de rentrée. La liturgie d'installation de notre pasteur Béatrice Cléromazir sera présidée par le pape Vincent Hubach, en présence du représentant du conseil régional, le pasteur Frédéric Gentil. Et c'est Béatrice Cléromazir qui assurera la prédication, accompagnée à l'orgue par Aurélien Péter. Ce sera également le culte de rentrée de l'éducation biblique. Donc je pense que toutes les familles inscrites à l'oratoire ont reçu un certain nombre de documents qu'ils peuvent renvoyer au secrétariat. Et cette éducation biblique sera, comme d'habitude, répartie en deux lieux. Pour les petits, l'éveil biblique aux quatre rues de l'oratoire, et pour les plus grands, école et collégiens, école biblique et catéchisme, ici même. Les petits, c'est de 10h30 à 11h30, et les autres de 10h30 à 16h. Je vous remercie, vous souhaite à tous un très bon dimanche. C'est maintenant le moment de l'offrande, et nous comptons évidemment sur votre générosité.
L'exposition peut être visitée à l'issue du culte, pour ceux qui n'ont pas entendu. Je vous invite à la prière. Père, tu nous as redit ta compassion. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais et nous accueilles. Nos chemins sont devant toi. C'est de toi que nous venons et nous pouvons aller à toi. Déposer devant toi tous nos soucis, nos inquiétudes, afin que tu les apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies, toute notre vie, afin que tu la conduises à ta vie. Sois avec nos proches, ceux que nous aimons, ceux que nous avons de la peine à aimer. Redis ta présence auprès des plus fragiles, auprès de ceux qui se sentent enfermés. Éclaire les pensées, dirige les actes de chacun, que nous devenions signe d'ouverture. Et lorsque c'est à notre tour, Seigneur, de gémir, fais-nous percevoir la main tendue, la parole de paix, le signe qui relève. Éclaire et conduis celles et ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables de la justice et de la paix. Éclaire et conduis ton Église sous toutes ses formes dans le monde, qu'elle soit toujours à nouveau renouvelée dans ses paroles et dans ses actes. Fais de nous cette Église, l'Église de tes enfants, qui peuvent, à la suite des disciples du Christ, te redire les mots qu'il leur a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Portez le souci de la justice et de la paix. Soyez signe de cette ouverture. Allez avec la promesse de rencontrer le Christ dans le plus petit de nos frères et de nos sœurs. Allez, porteur de la bonne nouvelle qui ouvre le plus enfermé. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix, ici et maintenant. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.